Alors, nous voilà de retour pour les amateurs de sport week-end. Ce matin, il y avait des séances de qualification en Italie pour le Grand Prix qui aura lieu demain. Et pour en discuter, on va aller tout de suite rejoindre notre expert Philippe Lagu. Salut Philippe!
Salut Jérémy!
Alors Philippe, ce matin, je voudrais dire sans surprise, parce que c'est la 99e fois que ça arrive dans sa carrière pour Lewis Hamilton, il décroche la pole position, mais il y a quand même un petit aspect de surprise. D'ailleurs, j'écoutais le point de presse après les qualifs et Hamilton lui-même semblait surpris d'avoir terminé devant les deux Red Bulls. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la qualif de ce matin? Pourquoi a-t-il été capable de les surclasser, les deux?
Ben, si surprise il y a, c'est surtout quand on regarde la 8e place de Valtteri Bottas qui conduit la même voiture.
Ouais.
Alors, on peut dire que Lewis Hamilton l'a vraiment laminé. Sinon, je vois pas de surprise, honnêtement, parce que Mercedes, c'est Mercedes. Comme cette année, en 2021, il y a un moratoire sur le plan technique par rapport à l'année dernière. Il ne fallait surtout pas s'attendre à ce que Mercedes régresse.
Mm-hmm.
Et ce qui s'est passé pendant les très courts essais pré-saison à Bahreïn, ben, il y a peut-être là carrément de la stratégie de désinformation. Là. On a peut-être donné l'illusion chez Mercedes que ça allait pas bien du tout,
ouais.
Mais on se rend compte que c'est quand même l'écurie Mercedes, c'est quand même Lewis Hamilton aussi. Alors, une pole de Lewis Hamilton sur une Mercedes en plus,
ouais.
Moi, je vois jamais de grande surprise. Là, quand il dit lui-même qu'il a été un peu surpris,
ouais.
Encore là, on essaye de jouer dans la tête de nos principaux rivaux, parce
exact.
Que du côté de Red Bull, c'est quand même de là que vient la menace. Et on se serait peut-être attendu à avoir une autre Red Bull que celle de Sergio Perez en première ligne. On attendait plutôt Verstappen.
Ben c'est ça. Ça, c'était ma deuxième question. Alors, comment se fait-il que Perez s'est retrouvé devant Verstappen ce matin?
Parce que c'est Sergio Perez et que c'est pas un pied de céleri non plus.
Mm-hmm.
Là, ce qu'on se rend compte cette année, c'est que Red Bull n'est plus une écurie à un seul pilote.
Ouais.
Alors, on n'aurait pas vu Alexander Albon en première ligne l'année passée, ça c'est sûr, ôtez-vous ça de la tête,
mm-hmm.
Alors que Sergio Perez, avec une très bonne voiture entre les mains, là il est en train de montrer de quel bois il est fait. Je pense pas qu'il va devancer régulièrement Max Verstappen cette année, mais on voit que c'est un gars qui est capable de jouer la première ligne en qualification, et on sait depuis l'année passée aussi que c'est un gagnant de Grand Prix, alors là on est vraiment allé se chercher un vrai deuxième pilote, là, et on a une paire de pilotes chez Red Bull là, qui est aussi solide qu'à l'époque de Verstappen et Ricciardo. Donc, Verstappen, lui, qui se retrouve en deuxième ligne, il est mm-hmm. troisième, et à côté de lui, Charles Leclerc, ça, c'est impressionnant. Parce
oui.
que Ferrari, hein, on le sait, l'année passée, c'était, je pense que le mot catastrophique, compte tenu des moyens dont dispose Ferrari, n'est pas exagéré. Là, c'est beaucoup mieux cette année, mais quand même, se qualifier en deuxième ligne avec une voiture comme ça, ça relève de l'exploit. Deuxième fois que Leclerc nous en sert un, ce qui montre de quel bois est fait ce pilote-là aussi. C'est un pilote d'exception.
Mm-hmm.
Puis, en troisième ligne, Pierre Gasly, cinquième avec l'AlphaTauri, ça, c'est très impressionnant aussi. Là. Il est devant les deux McLaren, entre autres.
Oui, avec Daniel Ricciardo qui, lui, va partir sixième. J'allais sauter à nos Canadiens, mais étant donné que tu as déjà glissé un mot sur Ferrari, je pense que la question que tous les Italiens qui nous écoutent, c'est est-ce que enfin cette année, on pourrait revoir un pilote Ferrari au moins remonter sur le podium ou gagner peut-être même une course, ou est-ce que c'est illusoire de le croire?
Sur le podium, c'est pas improbable. Une victoire, je dirais peut-être pas illusoire, Jérémy, parce qu'on le sait, en Formule 1, on peut toujours avoir des courses, des fois, où il y a des choses très étranges qui peuvent se produire.
Ouais, hein, notamment personne, à Monaco, là, par exemple.
Ben, Monaco, où personne n'aurait prédit l'année passée la victoire de Gasly à Monza non plus.
Mm-hmm.
Alors ça, il peut toujours arriver des courses comme ça. Une course sous la pluie, tout est possible aussi quand il pleut. Mais sinon, là, dans des conditions régulières, une victoire de Ferrari cette année, ce serait très, très étonnant. Ce serait vraiment une très grande surprise. Par contre, le podium, ça, de toute évidence, ce n'est pas inaccessible. On le voit avec les performances de Leclerc en qualification. Mais celui qui est très, très décevant, c'est Bottas. Là. Se qualifier huitième en quatrième ligne avec une Mercedes, c'est impardonnable. Et je pense que Valtteri Bottas mérite sa place en Formule 1, oui, mais elle ne mérite pas sa place avec une équipe de premier plan. Pas du tout.
En tout cas, écoutez, quand on regarde les chiffres, là, c'est 1 minute 114 et 411 millièmes pour Hamilton et c'est 898 millièmes pour Bottas. Donc, c'est une demi-seconde plus lent, mais en Formule 1, ça fait un monde de différence.
Ben, c'est énorme, certain. Ouais. Et Lance Stroll, ben, lui, est 10e. Alors, quand même, il est dans le top 10.
Exact.
Et de toute évidence, avec les problèmes d'Aston Martin cette année, c'est le mieux qu'il a à faire. La bonne nouvelle dans le cas de Lance, c'est qu'encore une fois, il devance Sébastien Vettel, son coéquipier. Alors là, ben, à ce moment-là, on peut regarder le verre d'eau à moitié plein ou le verre d'eau à moitié vide. Mm-hmm. Si on est un détracteur de Lance, on va dire oui, mais Vettel n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été. Si on garde le verre à moitié plein, on va plutôt dire ben, ça fait quand même deux courses qu'il devance son coéquipier. Mm-hmm. Son coéquipier, c'est quand même un quadruple champion du
exact,
monde.
Exact, exactement. Et Nicolas Latifi, lui, qui va partir 14e. Je ne vais pas te laisser partir sans parler du Grand Prix de Montréal, parce qu'il y en a beaucoup été question cette semaine. Je sais que tu as parfois des informations privilégiées et c'est très compliqué présentement. Moi, Philippe, ça me fait, je vais te le dire, très peur de penser qu'on pourrait perdre pour une deuxième année consécutive le Grand Prix de Montréal. Parce qu'à un moment donné, Liberty va peut-être se dire, ben finalement, Montréal, on est capable de s'en passer. On le fait deux années sans eux et tout ça. Moi, Philippe, ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est que partout dans le monde, il y a eu des événements qui ont été annulés l'année dernière, des événements majeurs. Mais dans la grande majorité, et je dirais peut-être même dans la totalité, ils n'ont pas dû annuler deux années consécutivement. Tous les grands événements du printemps ont lieu, ont trouvé une façon d'avoir lieu. Et là, ben, on a un Grand Prix qui doit avoir lieu justement dans deux mois et on n'est toujours pas certain qu'on va pouvoir le garder. Ça me fait très peur. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Pour appuyer tes propos, aujourd'hui, les autorités espagnoles ont annoncé que le Grand Prix d'Espagne aurait lieu à huis clos, mm-hmm. mais qu'il aurait lieu quand même. Donc, ça vient étayer ta théorie. Mm-hmm. Par contre, écoute, à Montréal, c'est un peu difficile, là, tu sais, on est quand même à quoi? 1500 cas quotidiens encore, et même plus, ouais. au moment où on se parle. Ce qui est embêtant au Québec, c'est qu'à chaque fois qu'on a donné un petit peu plus de cordes, ça a viré à la catastrophe. Autrement dit, à chaque fois qu'on a desserré un peu les règles de santé publique, on a toujours payé le prix. Mais en même temps, c'est sûr que si on se compare, on se console. Si on se compare à l'Ontario, par exemple, on n'est pas là du tout.
Non.
Est-ce que ce serait si risqué que ça de faire un Grand Prix à huis clos sur l'île Notre-Dame? Ça, je ne suis pas un expert en santé publique non plus. Par contre, là où j'ai vraiment un inconfort, et ça, il faut que je te le dise,
oui.
c'est avec le fait qu'on serait obligé de donner de l'argent aux promoteurs du Grand Prix
oui.
pour compenser ces pertes. Là, j'ai un malaise avec ça.
Mais Philippe, je veux dire, dans toutes les industries, les gens qui subissent des pertes obtiennent présentement de l'aide, que tu sois un propriétaire de restaurant ou de quoi que ce soit. Donc, tu sais, moi, je vois pas vraiment de différence, là. Je sais pas ce que tu en penses, là.
Oui, mais en même temps, c'est que c'est déjà largement subventionné. Puis là, rendu là, on va plus loin qu'un simple événement sportif. Là, on est rendu dans un problème moral, on est rendu dans un problème éthique. Mmh. C'est subventionner ce que tout le monde considère à juste titre comme un sport de milliardaires. Je sais pas, je dois me découvrir un côté socialiste que j'ignorais que j'avais moi-même, là. Mais j'ai un inconfort avec ça.
Ben, en tout cas,
j'ai de l'admettre. Et ce que je veux dire, Jérémy, aussi, ouais. c'est que moi, je ne crois pas qu'on va perdre le Grand Prix pour autant, parce que on n'est plus à l'ère de Bernie Ecclestone, qui, lui, est un gars qui marchait.
Tu sais, aux menaces.
Aux menaces,
oui, oui.
Je veux dire, c'était un bully, là, littéralement. C'était un gars qui marchait ouais. à l'intimidation, à l'extorsion, au chantage. Avec Liberty Media, on n'est plus là.
Non,
c'est un contrat jusqu'à preuve du contraire. Ça fait ouais. quand même 4 ans qu'ils ont qu'ils dirigent la Formule 1. Et l'autre bonne nouvelle de Liberty Media, c'est que ce sont des Américains. Et eux comprennent mieux que quiconque l'importance de Montréal, l'importance du marché nord-américain pour la Formule 1. C'est un marché
ouais.
où ils veulent absolument s'établir. Ils savent qu'il y a beaucoup d'Américains aussi qui viennent
absolument.
Voir la course. à Montréal. Puis la réputation de Montréal est très, très bonne dans le paddock. Alors, est-ce qu'on perdrait le Grand Prix pour autant? Moi, j'ai beaucoup de misère à croire ça.
En tout cas, moi, j'espère qu'on aura un Grand Prix. J'espère qu'on va pouvoir le faire en toute sécurité. Et sait-on jamais, ça pourrait aussi servir pour comme exemple. C'est-à-dire que peut-être qu'on pourrait sortir des certaines leçons ou apprendre certaines choses si on permettait la tenue du Grand Prix et comment fonctionner justement pour qu'on puisse commencer à s'ajuster pour éventuellement peut-être ouvrir les frontières. Merci beaucoup, Philippe Lagut. On va vous souhaiter une bonne course demain et on se reparle sans faute prochainement, probablement la semaine prochaine. Merci, Philippe.
Ben moi aussi, Jérémy. J'espère qu'il va y avoir un Grand Prix à Montréal puis j'espère qu'on va le couvrir ensemble.
On se croise les doigts. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye. Alors, petite pause au retour de ceci. Je vais revenir sur le dossier des Rays de Tampa parce que ça a bougé cette semaine du côté de St. Petersburg. J'ai même moi-même suivi cette séance où on a vu le propriétaire des Rays de Tampa plaider sa cause au conseil de ville de St. Pete par rapport à la garde partagée des Rays entre Tampa et Montréal. Donc, je vous raconte tout ça au retour de la pause. Et ensuite de ça, on va obtenir les commentaires de Ray Lalonde qui va venir nous donner son opinion sur la garde partagée et là où nous en sommes rendus.